Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h08, bonjour à tous si vous venez de nous rejoindre. Sachez que les grandes gueules du sport, c'est votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Vous avez manqué une excellente première heure avec un débat sur Kylian Mbappé, sur l'esthétisme du sport. N'hésitez pas à aller nous podcaster. Avec Christophe Cessieux, Stephen Brun, Marion Bartoli, Denis Charvet aujourd'hui. Dans quelques instants, nous allons passer la seconde autour de Julien Alaphilippe. De nouveau champion du monde, pardonnez-moi, y croyez-vous une seule seconde. 10h30, nous allons tout vous expliquer sur l'affaire Paul Pogba et des nouvelles révélations. Informations qui nous sont parvenues hier. À 11h, le bras de fer des GG sur l'affaire Thomas Hurtel. À peine l'Euro terminé, le joueur de l'équipe de France de basket s'est engagé en Russie avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Il n'est donc plus sélectionnable en bleu. Il y aura une team choquée et une team pas choquée. Et puis 11h30, un reportage magnifique sur la dernière de la légende, Roger Federer. C'était incroyable, c'était émouvant. Roger Federer en pleurs. Et aussi Rafael Nadal en pleurs. C'était beau, c'était hier soir à la Lever Cup.
Ladies and gentlemen, Roger Federer.
Thank you, everybody. Thank you. Love you all. It's been an amazing journey. Thank you, everybody.
Magnifique soirée, on vous contera tout ça avec Eric Salio qui était à Londres donc hier soir. Proverbe chinois pour démarrer cette nouvelle heure. Répétez trois fois, les mots deviennent fades comme de l'eau.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
C'est lui le patron, c'est grandiose, c'est colossal, c'est tout simplement monumental ce qu'a réalisé aujourd'hui Julien Alaphilippe.
Eh oui, c'est moi le patron.
Comment est-il ? Un champion du monde.
Puis certainement pas à 100%, mais j'ai vraiment envie de me faire mal, vraiment envie de donner le meilleur de moi-même sur cette course.
Le champion va nous montrer comment il vole.
Il est en danseuse, Julien Alaphilippe. Allez, il va le faire, il va s'emparer dans quelques instants de ce maillot arc-en-ciel pour la deuxième année consécutive.
Je suis content d'être là, d'avoir retrouvé les mecs et d'être prêt à se battre dimanche pour faire une belle course et essayer de garder le maillot dans l'équipe.
Est-ce vraiment si invraisemblable ?
J'y crois encore. On est vivant, donc on est fort.
Oh, ce filet de bois incroyable pour Stephen Brun. Merci pour ce
Magic
karaoké du samedi matin.
Exceptionnel.
Bien sûr. J'adore. J'ai tous ces disques. Dimanche matin, Julien Alaphilippe pourrait entrer dans un cercle très fermé, celui des triples champions du monde. Ils ne sont que 5 aujourd'hui à avoir réalisé cet exploit. Un seul l'a fait d'affilée, Peter Sagan en 2015, 2016 et 2017. Le cycliste français. Sagan 3 fois, merci. Le cycliste français pourrait ainsi entrer dans l'histoire, mais parce qu'il y a toujours un mais dans ces histoires, évidemment, le coureur de la Quick-Step a vécu une saison noire faite de chutes, d'abandon et de blessures. La musique qui fout les jetons. Et cette question ? Julien Alaphilippe, encore champion du monde. Y croyez-vous une seule seconde ? Oui ou non ? Stephen Brun.
Je n'y crois plus.
Très bien. Marion Bartoli.
Ça va être compliqué.
Ok, c'est plutôt non. Christophe Cessieux.
Quelques petites secondes, je veux bien y croire quelques petites secondes.
Ok, il y croit quand même un peu.
Coup d'envoi, coup de départ.
Denis Charvet.
J'étais parti sur un non, mais je veux bien y croire aussi.
C'est plutôt oui, surtout que la cote est belle et tu vas parier, on a bien compris. dis-moi que c'est faux.
La cote est à 15.
Il a vérifié la cote, je connais par cœur. J'ai vu ton petit œil qui était en train de friser là, mon coquin. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste vélo Arnaud Souk. Salut Arnaud.
Salut les amis.
Alors comment la France et donc Julien Alaphilippe abordent ces championnats du monde ?
Alors avec plein d'espoir hein, d'abord parce qu'il y a 9 coureurs, voilà, c'est un de plus que toutes les autres nations du gratin mondial comme la Belgique, l'Australie, les Pays-Bas ou encore l'Italie. La prime évidemment au champion sortant Julien Alaphilippe, double tenant de ce maillot arc-en-ciel. 9 coureurs, parmi lesquels une sacrée brochette de Cador. On a Alaphilippe donc, Benoît Cosnefroy en grande forme, Christophe Laporte, vainqueur d'une étape sur le Tour de France à Cahors en juillet. Bref, même s'il prend quelques détours pour l'avouer, Thomas Vauclair, le sélectionneur, le sait, sur le papier, les Bleus sont les plus forts.
Les plus forts, c'est ceux qui gagnent. La réponse, ça sera dimanche. Je ne suis pas langue de bois. On a des coureurs en très bonne condition. Sur le papier, on a une très belle équipe. On a un très bon collectif. En état de forme, peut-être le plus complet.
Alors, avec un doute quand même sur l'état de forme du leader sur le papier, Julien Alaphilippe, le leader donc naturel hein, de cette équipe de France, est-il à 100% quelques semaines après sa chute et son abandon sur le Tour d'Espagne ?
J'arrive pas dans les meilleures conditions, ça c'est sûr. La dernière fois que j'étais sur le vélo en course, j'étais blessé une fois de plus. J'aurais préféré arriver dans d'autres circonstances, d'éviter de me blesser une fois de plus, ça aurait été bien aussi. Puis certainement pas à 100%, mais j'ai vraiment envie de me faire mal, vraiment envie de donner le meilleur de moi-même sur cette course.
Voilà, alors quoi qu'il arrive, Alaphilippe, s'il a les jambes, hein, sera le leader incontestable de Thomas Vauclair. Quant à Benoît Cosnefroy, arrivé au tout dernier moment en Australie, son entourage a confié sans ambiguïté à RMC qu'il n'avait pas fait le déplacement pour rien. En clair, sur un parcours relativement similaire à celui du Grand Prix du Québec qu'il a remporté il y a deux semaines, le Normand devrait avoir une carte très intéressante à jouer demain. N'oublions pas aussi les outsiders. Je parlais de Christophe Laporte, on peut également évoquer Romain Bardet. Il est vice-champion du monde en 2018, Romain Bardet. On peut également évoquer, en 2018, oui, c'est bien ça. Et on peut également évoquer Valentin Madouas, qui a fait une super saison, qui sera là dans un rôle de Gregario a priori demain, mais qui lui aussi pourrait, selon les scénarios de course, tout à fait se glisser dans une échappée intéressante.
Une course à suivre sur RMC, arrivée prévue autour de 8h50 demain matin, et tu seras là évidemment, Arnaud Souk, pour commenter ces championnats du monde. Tu restes avec nous pour ce débat. Julien Alaphilippe, champion du monde, y croyez-vous une seule seconde? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Venez participer vous aussi à notre débat. C'est un petit oui, j'ai l'impression, Christophe.
Oui, bah oui, parce qu'on a envie, d'y croire. Quand tu alignes Julien Alaphilippe au départ d'une course, tu te dis qu'il a la possibilité de gagner. Il fait certes pas partie des grandissimes favoris, mais moi je le classe quand même dans la catégorie des outsiders. Et on sait qu'en vélo, ce sont pas toujours ceux qui sont le plus en forme qui s'imposent. Il a une équipe qui va être entièrement dévouée à sa cause, qui sera pas le cas par exemple de Van Aert, qui va avoir une équipe de Belgique divisée en deux. L'année dernière, ça lui avait joué des tours. Julien, s'il est là, c'est qu'il a quand même, c'est non seulement qu'il a envie et qu'en plus qu'il a la condition. Autrement, il serait pas allé en Australie pour faire deux tours de circuit.
Tu le connais, dans sa tête, il va pour gagner.
C'est marrant parce qu'il donnait une interview ce matin à nos confrères de l'équipe où il racontait qu'il était partagé entre deux sentiments. Le sentiment de vouloir se débarrasser de ce maillot arc-en-ciel qui ne lui a pas joué que des bons tours depuis un an. On parle beaucoup de la malédiction du maillot arc-en-ciel. Cette année, ça va vraiment été le cas. Mais en même temps, il a envie d'aller le chercher parce que voilà, il a un orgueil terrible et puis surtout, il a envie d'oublier cette année. Et demain, pour la première fois depuis un an, bah, il ne portera pas le maillot arc-en-ciel qui lui a joué des mauvais tours. Donc, je me dis que pourquoi pas, Julien. En plus, quand tu entends Vauclair et Alaphilippe dire non, on n'est pas en forme, on va pas jouer.
Ça donne encore plus d'espoir.
Mais oui, je les connais, ces deux Marius, qu'ils nous réservent un petit tour.
Ça fait longtemps que j'ai arrêté de croire au Père Noël. J'y sais, le sport de haut niveau et championnat du monde sur route.
On devrait écouter ce que tu as dit l'année dernière, juste avant le.
Je pense qu'il a dit exactement la même chose.
Ouais, justement. Exactement la même chose. Pour le motiver. C'est pas du tout les mêmes circonstances là. Le championnat du monde de demain, c'est pas la cour des miracles hein. La réalité du sport pro, c'est que si t'es pas prêt ou en forme, tu ne gagnes pas. Et là c'est le cas. Il a pas de rythme, il a pas de repère, il a des séquelles.
Le sais toi qu'il a pas de rythme.
Il le dit lui. Donc moi je répète, je donne ses mots. Il a des séquelles de ses chutes et pas uniquement physiques. Quand tu passes ta saison par terre, t'es chamboulé dans la calboche. Il le dit lui-même qu'il a plus peur maintenant sur les parcelles où ça roule très vite. Il cogite un petit peu. Et quand je vois que Thomas Vauclair rappelle in extremis Benoît Cosnefroy au buzzer pour lui dire qu'est-ce qu'il y a, Arnaud, tu hoches la tête, vas-y, tu dodelines, qu'est-ce qu'il se passe.
Non, vas-y, je te laisse finir. Non, mais il l'a pas rappelé in extremis, mais vas-y.
Enfin, il l'a rappelé, il est venu, ah. Il a pris la place de
personne.
Voilà. C'était pas entre lui et Cavani.
C'est un de plus qu'il a pris.
Non, c'était entre lui et Cavani. Cosnefroy était de toute manière sélectionné s'il avait envie de venir.
Oui, sauf que Cosnefroy, il voulait pas venir.
Sauf que Thomas Vauclair a réussi à le convaincre.
Mais pourquoi il
l'a convaincu? De ce qu'on nous dit au dernier moment. De ce qu'on nous dit pas, peut-être un peu avant.
Il l'a convaincu en lui disant.
Pour le laisser tranquille, justement, pour pas que les médias viennent dire oui, Benoît Cosnefroy.
Bref. Stéphane, il a bien bossé son sujet.
Bref, Cosnefroy, moi je sais qu'il est là pour une chose, il n'est pas là pour faire le faire valoir. Et je pense que Thomas Vauclair lui a dit écoute, tu seras peut-être la carte numéro une, mais Julien Alaphilippe, il est très bon aujourd'hui dans l'état d'esprit de moi je suis là pour l'équipe, je suis là pour aider, je veux que le maillot arc-en-ciel. Peut-être ne reste pas sur moi, mais reste sur un mec de mon équipe, et je pense que ça sera un coéquipier modèle, oui, mais qu'il n'a pas le jus nécessaire aujourd'hui pour être triple champion du monde.
Non, mais l'année dernière, j'en parlais avec Arnaud, l'année dernière, il a eu le même discours, hein. Il a été champion du monde.
Mais c'était pas le même état de forme,
c'était un état de forme qui n'était pas génial.
Oui, il était moins bien cette année que l'année dernière.
Non, mais ce mec est hors norme. Je crois qu'il est hors norme pour des classiques, pour des courses d'un jour. Et ça, c'est pour ça qu'on peut avoir de grands espoirs avec lui, parce que c'est pas un gars pour le Tour de France, c'est un gars pour une course. C'est un mec qui peut s'arracher, qui peut se, comment dire, se transformer en le jour J. Et il a des capacités hors normes à aller chercher, à aller puiser dans ses ressources. Et l'année dernière, ce qu'il fait, c'est quand même invraisemblable déjà. D'aller faire ce qu'il fait sur le fil, d'aller prendre à Van Aert, c'est quand même énorme, surtout à quelques kilomètres de l'arrivée, à Rennes. Donc c'est quand même un mec à part. Pour moi, c'est un mec hors normes et qui a les capacités de tout chambouler. Et s'il y va, je pense que c'est pour gagner.
Ok, tu y crois assez pour mettre un petit peu d'argent dessus. Non, avec une cote à 15.
On rigole avec les paris, mais sincèrement, moi, l'année dernière, j'avais vu la fin de course en direct, ça m'avait beaucoup touché et ému. Parce que ce gars, il a un truc à part. Dans le monde du cyclisme, je suis admiratif parce qu'il a du.
T'as les têtes ?
Non, il a du panache. Il a un truc que n'ont pas les autres. Il tente des trucs. Il tente, panache.
Ok,
c'est la vision.
Qui ont du panache. C'est la vision parce qu'on est supporters du coureur.
D'accord, mais il est double champion du monde.
En face de lui.
Il est double champion du monde quand même. Tu vas pas non plus remettre en question ses qualités de vainqueur. Non, je pense qu'il peut le faire et qu'il va le faire.
Y croyez-vous une seule seconde? C'est notre débat le 32-16 pour y participer. Marion Bartoli.
Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est pas facile de passer en dernier, mais je dirais que bien évidemment, s'il était à 100%, il aurait largement plus que ses chances d'aller arriver à égaler ce record de Peter Sagan et gagner trois fois consécutives. Après, là où je suis aussi d'accord avec Stephen, c'est que je pense que ces chutes comme sa répétition l'ont vraiment affecté sur le plan psychologique et que ça va être beaucoup plus dur pour lui de se lancer dans la bataille. Après, il faut quand même pas non plus se leurrer. Quant à Van Der Poel, Van Aert et Pogacar, qui eux sont dans une immense forme, avec Pogacar qui vient de gagner le Grand Prix de Montréal il y a deux semaine, qui a un parcours qui est taillé pour ses capacités, qui a une énorme vitesse de pointe dans des ascensions. Se dire que Julien, avec quasiment aucun point de repère cette année, pas beaucoup de courses terminées, énormément de chutes, il a eu quand même, bien sûr, cette énorme chute sur la Doyenne. Il a attrapé le Covid fin juillet, la Vuelta, il est touché à la clavicule. C'est compliqué de se dire qu'il va aller taper les trois. J'ai du mal à le voir en numéro un, mais après, bien évidemment, j'ai envie d'un miracle et j'ai envie qu'il gagne, ça c'est certain. Mais si on analyse de manière un peu plus froide, en mettant un peu moins le sentiment, ça me paraît compliqué. Mais là où je suis d'accord avec vous aussi, c'est qu'il peut, sur un jour et sur une course, aller défier tous ces paramètres qui nous paraissent logiques et à la moelle et au mental, aller le remporter. Ça c'est sûr, il a été capable de le faire deux fois, il peut le faire trois fois, mais moi le problème qui me fait hésiter, c'est ses chutes à répétition, parce que je pense qu'il a perdu quand même un petit peu de confiance.
Son rôle dans l'équipe, c'est très important, et il en a parlé, Julien Alaphilippe, je me considère capable de peser sur la course, d'aider les copains si besoin, je suis un des leaders, pas le leader unique, ça me va. Ça lui va vraiment, ça, Arnaud Souk ?
Il y a le discours, et on le sait avec cette équipe de France, et notamment avec Thomas Vauclair, le sélectionneur, qui est un filou. Il y a le discours, il y a la réalité. Donc là-dessus, ouais. Moi, j'attends de voir. J'ai aucun doute sur le fait que Julien Alaphilippe saura se muer en coéquipier modèle
Il
a permis à Bob Jungels, il y a quelques années également, de gagner Liège-Bastogne-Liège en jouant les coéquipiers, alors que lui, c'était son rêve de remporter.
S'il voit qu'il ne peut pas aller chercher lui-même.
Voilà, pareil. Oui, s'il voit. Exactement. S'il voit qu'il ne peut pas aller chercher lui-même. Et là où je disais, Thomas Vauclair est un petit peu. Voilà, un filou, en tout cas dans sa communication, et il l'avoue lui-même d'ailleurs, le sélectionneur, c'est que, en fait, on nous explique aujourd'hui que Julien Alaphilippe n'est pas à 100%. Moi, j'attends de voir, en fait.
Ah, ok.
J'attends de voir qu'il soit pas à 100%, ouais. Julien Alaphilippe.
Voilà. On le présente comme diminué exprès face aux autres coureurs, c'est
ça? C'est-à-dire qu'il y a absolument aucune véritable information qui ne filtre sur son véritable état aujourd'hui de santé. Donc, sur son véritable état de forme.
Il
est en bonne santé, il n'y a pas de souci, mais est-il à 90%? Est-il à 100%?
Après, j'ai une question. Pour toi,
toutes les blessures ont été faites sur le haut du corps. Hein. Il a jamais été touché sur le bas du corps. Donc ses jambes sont impeccables et tout ça.
C'est ma question justement pour vous, les spécialistes. Est-ce qu'on peut récupérer en vélo aussi vite?
Il faut beaucoup de.
Je n'ai pas la réponse.
Beaucoup de kilomètres dans les jambes.
J'ai l'impression que les cyclistes récupèrent très vite. Moi, je trouve qu'on a Bernal qui était à moitié en chaise roulante et puis qui monte sur un vélo. J'ai l'impression que les cyclistes.
Les tennismen aussi. Roland Garros, il suffit d'une petite roquette. Si tu veux aller sur
Très bien les copains, mais c'est pas notre débat.
C'est pas le sujet. Oui.
Arnaud Souk.
Je sais plus ce que je voulais dire parce que Stephen m'a littéralement sidéré par sa réflexion. Je sais plus ce que je voulais dire.
L'état de santé de Julien. Est-ce qu'on peut récupérer?
Non, je sais où je voulais en venir. C'est qu'en fait, on nous a expliqué tout de suite que Julien Alaphilippe, ça va être compliqué pour les championnats du monde. Et puis il y a Patrick Lefebvre qui finalement très rapidement, son patron chez Quickstep Alpha Vinyl, nous a expliqué que ça sera bon. Genre à quasiment un mois du début du championnat du monde, nous a dit ça sera bon. En fait, ça sera bon, il sera bon. Je pense que en un mois, tu as le temps, je suis pas médecin, mais en tout cas quand on discute avec des médecins, tu as le temps de te remettre du genre de blessure dont il a pu souffrir.
Il va manquer un peu de foncier quand même.
Après, hein, la réalité, ce que dit Marion, l'histoire de la blessure psychologique qu'a pu avoir sa chute sur Liège-Bastogne-Liège, qui a pour le coup été dramatique, vraiment dramatique. Ouais. Voilà, il a eu très très peur, on a eu très très peur pour lui. Ça par contre, ça c'est quelque chose qu'on peut pas mesurer. Le circuit, pour vous la faire très courte, est un circuit très technique, relativement urbain, donc ça a beaucoup tourné. Le temps est très humide depuis plusieurs jours sur Wollongong.
Il aime ça, le temps humide.
Toutes les questions, c'est pour parier.
Est-ce que vous me laissez lister les favoris quand même?
Vas-y.
Je vous les donne.
Il y en a
54, ça va être un petit peu long. J'ai listé, alors c'est pas dans l'ordre étoile, machin, 5 étoiles. Je vous les listé comme ça, tels qu'ils me sont venus. J'ai mis Mathieu Van Der Poel, j'ai mis Wout Van Aert, j'ai mis Remco Evenepoel, j'ai mis Dylan Van Baarle, médaille d'argent l'an passé, Alberto Bettiol, Matteo Trentin, Tadej Pogacar, Michael Matthews. Oui, Marion, je l'ai mis pour moi, c'est même l'un des favoris principaux de cette course. Benoît Cosnefroy, j'ai mis qui? J'ai mis Julien Alaphilippe et j'ai mis Binyan Girmay également et Christophe Laporte.
Je reprends la main parce que j'aimerais.
Non, non, non.
Je reprends la main parce que.
C'était pas bien ma liste des favoris.
Si, c'était génial, je me suis régalé.
Heureusement qu'il n'y a pas Philippe Croizon pour reprendre la main.
Oui, parce que, mais on l'invite de temps en temps pour ça quand même. Oui, c'était une petite blague que j'avais sortie sans faire exprès, évidemment. On l'embrasse, notre ami Philippe Croizon. Le rôle de Julien Alaphilippe, parce qu'en équipe de France, les championnats du monde, c'est quand même assez particulier parce qu'ils courent tous, évidemment, pour leurs sponsors, traditionnellement, et puis une fois par an. Ils sont français, ils courent ensemble et c'est le cas pour toutes les autres nations. Est-ce qu'ils peuvent, Christophe, arriver à s'entendre? On se souvient qu'une année, on avait trois leaders. Il y avait Romain Bardet, il y avait Thibaut Pinot et il y avait Julien Alaphilippe.
Figure-toi que je posais la question tout à l'heure à Arnaud, parce que Christophe Laporte, qui est un des membres éminents de cette équipe de France, va devoir travailler pour ses leaders, même s'il a aussi, pourquoi pas, la possibilité d'aller chercher le titre. Mais il est aussi l'équipier modèle de Wout Van Aert tout au long de la saison. Et il y a toujours ces
questions-là. Son homme de confiance, même.
Il y a tout, exactement. Il y a toujours ces questions-là.
Vous êtes en train de vendre incroyable dans le cyclisme.
Non, mais il y a eu des championnats du monde où des gars d'une nation ont travaillé pour aussi autres. Pour leur leader de l'année. Donc je pense pas que ça se fera, mais il y a toujours ces interrogations quand même lors d'un championnat du monde.
Les interrogations, après, tu les as ou pas?
Méfiez-vous des Laporte, hein. Ils sont quand même.
Arrête. Alors.
Toi. Tu voulais terminer le débat comme ça?
Oui.
Personnel merci ou quelque chose? Quelqu'un a encore quelque chose à déclarer?
Okay. Comment tu dis?
Shut up.
Attends, il est trilingue, au moins, minimum. 8h50 l'arrivée, tu seras sur RMC dans la matinale dès 6h du matin.
Dès 6h du matin, toutes les demi-heures, on va faire un point évidemment sur ce qui se passe dans cette course.
Ça se passe en Australie, ce sera compté par Arnaud Souk sur RMC, les championnats du monde de cyclisme avec, on l'espère, une victoire française. Et pourquoi pas le Julien Alaphilippe, mais déjà une victoire française, ce serait grandiose évidemment. Il est 10h26, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des GG du sport. Nous allons vous parler de l'affaire Paul Pogba. Il y a eu de nouvelles révélations, nous avons des informations à vous donner et vous allez réagir évidemment, les GG, avec toute la rédaction mobilisée, les dernières informations d'ailleurs sur rmcsport.fr. L'affaire Paul Pogba, c'est dans quelques instants, à tout de suite sur RMC. Une affaire en chasse une autre. La semaine dernière, l'affaire Emraoui Diallo connaissait un retournement de situation spectaculaire. On en parlait dans cette émission. Ce week-end, c'est l'affaire Paul Pogba qui agite les rédactions. Nicolas Pelletier, de la rédaction RMC Sport, est avec nous. Salut Nicolas.
Salut les GG.
Alors tu suis depuis le début cette affaire. RMC est en mesure de vous dévoiler quelques zones d'ombre. Nous allons y aller étape par étape. Vous allez pouvoir réagir évidemment, les GG. Tout d'abord, Nicolas, que s'est-il passé dans la nuit du 19 au 20 mars dernier, selon les dire de Paul Pogba, c'est l'épisode du racket.
Nous sommes le 19 mars, il est 23h, Paul Pogba profite de son passage pour aller faire un tour dans la cité où il a grandi en France. Il apprend que la mère de l'un de ses amis est malade, il décide d'aller la voir. En bas de l'immeuble, un homme l'attend. Cet homme, il le connaît, c'est un ami d'enfance, sa proposition est curieuse et Paul s'en étonne. Il lui dit, tu vas venir avec moi et tu laisses ton chauffeur ici. Paul, qui ne voit pas de problème à cela, est surtout rassuré par la présence de ses autres amis d'enfance. Il trouve quand même les propos de son copain curieux. Il suit ces individus, la destination est inconnue, peut-être dans le 94, selon ses dires devant les enquêteurs. Il se rend dans un appartement, un autre ami d'enfance lui ouvre la porte, 5 personnes à l'intérieur. Plusieurs personnes prennent la parole au cours de cette soirée. Un certain Mamadou est au courant que Paul Pogba a payé plusieurs fois un marabout. Mamadou est énervé et le menace alors. Il voulait dire autour de lui que le marabout a en fait été payé par Pogba car il voulait faire du mal aux gens autour de lui. Il dit même qu'il a des preuves sur clé USB. La suite, deux hommes entrent dans la pièce. Pogba est braqué avec un M16. Ils m'ont demandé 13 millions d'euros, 3 millions en cash, 10 millions en virement, déclare-t-il devant les enquêteurs. En étant braqué sous la menace, je leur ai dit que j'allais payer. J'ai voulu parler mais il criait « ta gueule, baisse les yeux ». Il sortira de cette pièce à 4h du matin selon sa déclaration. Le lendemain, il appelle sa banque. Boubacar, l'individu qui est désormais chargé de le suivre, est à côté de lui. Il demande 11 millions d'euros pour une sorte d'investissement. Je voulais que ma banque comprenne qu'il y avait un problème, mais je ne pouvais pas le dire car Boubacar était là. La banque refuse. Ses amis d'enfance lui proposent une autre solution, faire de l'investissement dans la crypto-monnaie.
Voilà pour ce premier coup de pression connu par Paul Pogba. Votre réaction, car il y aura d'autres coups de pression et tu vas nous raconter ça, Nicolas Pelletier, dans quelques instants. Déjà, sur ce premier coup de pression, je rappelle qu'on est en mars et qu'il a décidé de porter plainte.
C'est 2 jours avant le rassemblement de l'équipe de France.
Exactement, il a décidé de porter plainte 3 mois plus tard. C'était au mois de juillet. Stephen Brun, sur ce premier coup de pression, ton ressenti.
Ressenti, c'est affligeant. Je commence à comprendre en fait parce que j'ai été sévère avec le joueur Paul Pogba et quand tu apprends tout ça, tu prends un peu de recul en disant ouais, bah peut-être que tout ceci explique les mésaventures. Mais enfin je suis outré de se retrouver dans un appartement, guet-apens, scène de film, braqué. Bon, c'est.
Et il le dit, j'ai eu peur et j'ai voulu payer.
Il a eu peur. Heureusement qu'il a eu peur.
Non, mais bien sûr, mais il dit en plus, j'ai voulu payer. J'aurais dit que j'allais payer.
Mais oui, mais t'es obligé de dire oui parce que t'as peur de prendre une bastos, t'as peur pour ta vie, t'as peur. Bah, c'est. Tu te rends compte qu'on est dans une émission de sport, parler de sport et on se retrouve avec des affaires comme ça. C'est affligeant. Je suis affligé par tout ce que j'écoute.
Marion, tu veux réagir? On a d'autres, évidemment, informations à vous donner dans quelques instants sur l'affaire Pogba. Marion, tu veux réagir déjà à cette première histoire?
Non, mais bien sûr, absolument la même chose. Après, quand on connaît un petit peu la vie de quartier comme ça, on sait très bien que ces jeunes qui ont réussi ont une grosse attache encore avec leur quartier, qu'ils restent en contact avec avec, entre guillemets, les grands avec lesquels ils ont grandi quand ils étaient petits, qu'ils ont peut-être protégé à un moment donné. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne s'est pas méfié. Raison pour laquelle je pense que dans sa déposition au départ, il est vraiment allé en toute confiance. Il pensait vraiment pas que ces gens pouvaient effectivement lui vouloir du mal. Après, que ça soit celui qui a réussi, qui doit entre guillemets redonner pour tous les autres, on sait très bien que malheureusement, ça se passe aussi assez régulièrement comme ça. Et c'est ça qui je pense, a commencé à alerter aussi quand on écoute le discours d'Amélie ou d'Ea Castera. Il y a un encadrement à voir pour ces jeunes qui se sont sortis par leur sport, qui se sont sortis de ces banlieues-là et qui ont réussi. Je pense qu'il y a un encadrement à voir parce qu'effectivement, malheureusement, il y a toujours des gens avec des mauvaises intentions qui vont vouloir en profiter, qui vont vouloir les faire chanter, qui vont vouloir qu'ils leur donnent de l'argent et arriver à des extrêmes pareils pour un joueur qui a une réussite comme ça. Moi, effectivement, comme le dit Stephen, non seulement c'est affligeant, mais c'est totalement désolant. C'est-à-dire que on ne sait plus quel va être le rebondissement. Il y a des plateformes qui font des séries qui leur coûtent des milliards. Là, on a une série en live. J'ai l'impression qu'à chaque semaine, il y a un nouvel épisode et chaque semaine, il y a un nouveau rebondissement. Et malheureusement, ça ne va pas dans le bon sens du tout.
Et justement, on va vous donner d'autres informations qui pourraient nourrir, malheureusement, d'autres épisodes. Nicolas Pelletier, par la suite, Paul Pogba et son entourage vont connaître d'autres coups de pression.
Oui, d'autres coups de pression ou des visites, ce que l'on appelle au domicile de la maman. Il y aura la séquence du 14 juillet que tout le monde connaît maintenant au centre d'entraînement de la Juventus. La suite de cette histoire se déroule aussi et surtout le 30 juillet. C'est Mathias qui entre en contact avec son frère Paul Pogba. Il m'envoie un message pour me dire qu'il a tout entendu, qu'il s'était fait braquer, que je devais payer, sinon il allait tout balancer, tout ce qu'il sait aux médias et que j'avais 5 jours pour payer, sinon mon image serait fichue, affirme l'international français devant les enquêteurs. Paul Pogba hésite, mais les termes exacts du message me font hésiter. Je ne suis pas sûr que ce soit mon frère qui les ait écrits. J'ai prévenu ma mère de partir. C'est ce jour-là où j'ai prévenu ma mère de partir et je lui ai parlé de ce qui m'arrivait. Nous sommes à ce moment-là le 30 juillet, 15 jours après son dépôt de plainte devant les enquêteurs italiens.
15 jours après son dépôt de plainte et quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, c'est donc Mathias Pogba qui entre en scène médiatiquement. Et hier, nous avons appris d'autres choses sur lui, car même en détention, Mathias Pogba a pu publier des vidéos.
Oui, il est 5h33 et lors qu'il est en détention depuis samedi dernier, son compte Twitter s'active et publie 26 vidéos. Il dit qu'il a programmé ses tweets à l'avance grâce à un robot. Ça signifie aussi que je ne suis plus en liberté, soit du fait des hommes de main de mon frère, soit du fait de la police. Donc les plaintes calomnieuses pour me faire taire auront marché, explique le grand frère de Paul Pogba. Dans ses messages, Mathias Pogba accuse à nouveau son frère d'avoir à plusieurs reprises jeté des sorts à ses coéquipiers footballeurs, donc Kylian Mbappé, que ce soit par jalousie ou pour gagner une rencontre. Il affirme que cela a été le cas pour le match du PSG face à Manchester United en mars 2019. À la demande de Paul, le sorcier a été chargé de neutraliser Kylian Mbappé, qui connaissait alors une ascension rapide, raconte-t-il. Le grand frère de Paul Pogba explique notamment qu'il est tombé dans la sorcellerie. Le tournant fut la Coupe du Monde 2018, où Paul Pogba, encore plus croyant vers les sorciers qu'envers Dieu, il accuse aussi son frère de collusion avec le crime organisé. Voilà beaucoup d'informations, mais dans cette vidéo, il y a très peu de preuves.
Et j'ajoute que lors de l'une de ses vidéos, Mathias Pogba dit « Le problème était que Paul faisait tout pour se rapprocher de Kylian. Il l'appelait souvent, on le voyait bras dessus, bras dessous. C'est allé tellement loin que Kylian a presque failli conditionner son prochain contrat avec le PSG si Paul venait y jouer. C'est alors que derrière son dos, Paul lui faisait la sorcellerie afin de saboter ses matchs. Le même sorcier a d'ailleurs dit qu'il devait stopper la sorcellerie en cours sur Kylian au risque de détruire sa carrière. » Christophe Cessieux.
C'est complètement dingue ces histoires de sorcellerie, de marabout. Tu sais pas qui croire, tu sais pas si effectivement Paul a utilisé des marabouts pour essayer de
Mais on va le savoir un jour, hein, parce que
je sais pas, parce que
confiance à la justice.
Son frère dit je vais vous fournir des preuves.
Mais oui, mais il y a Nicolas,
il n'y a aucune preuve. Dans ces 26 vidéos, il n'y a rien.
Mais quand
c'est juste des
allégations. Quand on voit qu'une semaine après, il est placé en détention et qu'il peut quand même publier des vidéos.
A priori, il avait enregistré.
Oui, mais on ne sait pas s'il n'a pas enregistré d'autres éléments pour plus tard. Tu vois.
Ouais, oui, mais il n'y a pas de preuve, Nico.
Il fait du teasing.
Surtout que sur la preuve, sur la sorcellerie et le maraboutage, la police et l'enquête ne se portent absolument pas là-dessus.
Oui, ça,
il faut le préciser. Il n'y aura pas de preuve de toute façon.
L'enquête peut s'orienter là-dessus si c'est un moyen de pression pour faire payer la personne.
Mais les enquêteurs, ils ont quand même des éléments qu'on n'a pas. Donc je veux dire, tu mets pas quelqu'un en prison, moi je crois à la justice de notre pays, tu mets pas quelqu'un qui reste en prison sans avoir un minimum d'éléments qui fait que c'est incontournable. Et moi aujourd'hui, c'est pas que je veux défendre Pogba pour autant, mais Paul Pogba, mais c'est quand même hallucinant tout ce qu'on entend, quoi. C'est pire que la série.
L'histoire de son frère, c'est Christophe. Complètement hallucinant. Comment cette famille qui d'apparence semblait unie, on nous vendait la Pogba family depuis des années. C'est ces trois frères qui avaient réussi tous les trois dans le foot professionnel.
Plus ou moins.
C'est ça qui provoque finalement la jalousie et fait que ce mec là pète complètement les plombs et va faire chanter
mais
son frère.
Christophe, c'est pas...
comment tu peux en arriver à ça?
Mais dans beaucoup de familles, c'est comme ça, je suis désolé.
Ouais, enfin, à ce niveau-là, t'entends beaucoup des mecs qui
non, mais malheureusement,
leur frère.
La pression familiale, ça arrive évidemment. J'imagine.
Ouais, les deux frangins, moi j'avais braqué pour me gratter 500 euros.
Non, mais attention, là c'est non, mais l'autre. Non, mais...
je sais pas si je les avais
raccordés. Non, comparons pas ce qui est pas comparable, je suis désolé.
13 millions là.
Non, mais là le problème, tu parles d'un mec très très riche, un mec qui est très très connu, donc c'est pas le même rapport.
Je sais pas, mais c'est enfin, moi,
mais non, mais t'as pas compris, il y a l'argent au milieu.
Oui, mais je sais pas.
Attendez,
moi je veux bien qu'il y ait de la frustration et dire j'aurais voulu être comme mon frère. Mais il y a quand même une marge entre être frustré et être jaloux de la réussite et aller braquer son frère et l'emmener dans un guet-apens
en gros, les frères, en tout cas Mathias Pogba, reprochent à son frère, alors que lui est dans le besoin de mettre autant d'argent dans un maraboutage. On parle de 4 millions d'euros, des millions d'euros pour pratiquer de la sorcellerie. Mais je trouve quand même qu'au niveau de cette sorcellerie, quand on disait Mathias, son frère.
Il était dans le besoin, Mathias.
Bah, je pense qu'il était un peu plus dans le besoin et qu'il aurait bien eu besoin de ces 4 millions d'euros.
Mais quand même, normalement, il n'est pas dans le besoin.
Là où je voulais en venir, c'est ça nous donne un autre éclairage sur le maraboutage. Parce que qu'on ait affaire à des marabouts, si on y croit, pourquoi pas. Mais là, on n'avait pas perçu ça dès le départ. On s'est dit, OK, il en veut Mbappé, même en équipe de France, donc il le maraboute. Alors qu'en fait, c'est face à Manchester. Si c'est le cas, évidemment. Et ça donne un autre éclairage.
Ça a bien marché, par contre.
Ah bah oui, ça. Non mais alors, si c'est le cas, ça a très bien marché. Mais au moins, ce que l'on peut dire, c'est que. Je dirais comment. Si Imara. Enfin, je vais essayer de m'exprimer clairement. C'est beaucoup plus scandaleux de marabouter un coéquipier, imaginons dans une compétition alors qu'il n'a rien à voir avec ton club, que de le faire dans un match où il affronte son coéquipier. Vous voyez ce que je veux dire?
Bon, oui.
C'est plus légitime dans un match face à Manchester, ouais. PSG, que dans une Coupe du Monde pour marabouter, pour lui souhaiter du mal. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, parce que combien de temps ça dure le maraboutage?
Non.
Ouais. on n'a pas les délais. Mais... Qui a pris la formule 24 heures, 48 heures. Oui,
je pense que c'est ciblé, c'est calculé.
Si on le maraboutait un peu, c'est.
Alors, toi, on va te marabouter aussi.
Alors, je sais que vous vous moquez beaucoup.
À mon avis, t'es un peu marabouté, parce que là, tu sors les rames.
Pas du tout. Je me suis lancé dans une explication hasardeuse.
On s'appuie à contact à Marabout.
Pour prendre cette place, ça devrait arriver dans pas longtemps. Non, envoyez pas la petite musique, les copains. On a d'autres choses à aborder avec Nicolas Pelletier. Juste, Julien Beneteau, merci, ami de cette émission, me dit complètement raison. Tu as complètement raison, JC, sur l'histoire du maraboutage. En fonction de la situation, on peut le percevoir différemment. Merci, Julien, au moins d'être à mes côtés pour ce débat.
Julien Beneteau du tennis.
Moi aussi, m'a envoyé la question, Julien Beneteau, mais c'était.
Non.
J'ai pas compris son texto, mais bon, c'est pas grave.
Julien m'a envoyé un texto sur les paroles de Denis en disant moi j'ai foi en la justice. Il m'a dit mais Denis il parle pour son ami Bernard.
Voilà. On revient à nos moutons.
C'est Julien.
Julien. Nicolas Pelletier, RMC Sport dévoile hier le procès verbal d'audition d'un membre de l'équipe de France. On y apprend quoi?
Oui, c'est un procès verbal que l'on a pu consulter. Mohamed Sanadji, c'est un homme ultra important dans l'environnement de l'équipe de France. C'est le responsable de la sécurité, c'est un officier de police. Il revient sur les confidences de Paul Pogba que ce dernier lui a faites en mars dernier, 6 mois avant que l'affaire soit rendue publique. Il m'a dit qu'il vivait une situation particulièrement difficile, raconte l'officier, auprès de la fédération. Paul Pogba n'était pas bien et a confié que des gens lui voulaient du mal. Il avait peur d'être considéré comme une balance, poursuit Mohamed Sanadji lors de son audition du 9 août. L'officier de sécurité ajoute que la star des Bleus craignait surtout pour sa femme et ses enfants qui vivaient à Manchester. Au cours de cette audition, Sanadji raconte un véritable appel à l'aide de Paul Pogba qui se dit dépassé par les événements et certaines visites chez sa maman. Il voulait l'aide de la France. Mohamed Sanadji informe alors le milieu de terrain des Bleus qu'il ne peut pas garder cela pour lui. À ce moment-là, nous sommes en mars dernier, mais devant les enquêteurs, jamais il ne précise si une alerte a été réalisée auprès de la Fédération française de football.
Ok, merci pour toutes ces informations. Que le staff ait été au courant, est-ce que ça change quelque chose? Un membre du staff dans cette affaire ou pas du tout? En tout cas, c'est une information que l'on vous dévoile. Ça change pas grand-chose?
Pour moi, pas grand-chose.
Ok, en tout cas, cette information est à retrouver sur rmcsport.fr. Merci beaucoup. Je sais que tu travailles beaucoup sur cette enquête depuis le début, Nicolas Pelletier.
J'y sais.
Et Nicolas, j'ai une question pour toi.
Rapidement, les copains, vas-y.
S'il te plaît. Tu avais passé ce texto aussi, où, qui commence par Rafa, pour l'amour de Dieu, il faut faire un virement d'au moins 1 million d'euros pour les calmer, qui voit qu'on cherche la solution pour arrêter tout ça parce que j'ai vraiment peur du pire.
Ah tu oui, mais c'est un autre média qui l'a dévoilé hier soir. C'était dans C'est à vous, je crois.
Oui.
Bah, c'est
mais
à toi, la Marie.
Oui, j'ai Donc, un peu bossé le dossier, excuse-moi. Hein.
Mais j'ai pas travaillé là-dessus.
T'as pas.
Mais voilà. En tout cas,
Marion,
est-ce que tu veux dire par là, et moi aussi je m'interroge là-dessus, est-ce que Mathias Pogba, dans un sens, n'est pas soumis à des pressions
mais c'est l'une des pistes
d'abord. Lui, il est entre au-dessus d'un mec qui veut le découper.
Il a des pressions, mais il reste en prison. Moi, j'y crois pas une seconde.
C'est aussi un peu une protection dans ces affaires-là.
Que l'ensemble des 5 individus qui sont actuellement en détention devant les enquêteurs se sont défendus en disant qu'ils avaient subi des pressions d'une autre personne, d'un commanditaire plus puissant.
Ok, merci beaucoup Nicolas Pelletier. Tout ça est à retrouver sur rmcsport.fr. 10h46, on se retrouve dans quelques instants, le zapping des GG. À 11h, le bras de fer au sujet de Thomas Hurtel qui s'est engagé pour le Zénith Saint-Pétersbourg. Choqué ou pas choqué, venez sur les réseaux sociaux pour répondre à cette question sur notre compte Twitter. A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h49 de retour dans les GG avec Marion Bartoli, Denis Charvet, Stephen Brun, Christophe Cessieux. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. N'hésitez pas à aller nous podcaster depuis 9h ce matin avec une émission de très belle facture. À partir de 11h, votre nouvelle séquence dans cette émission depuis le début de la saison. Le bras de fer des GG. Il faut choisir son camp. Le sujet, Thomas Hertel, le joueur de l'équipe de France de basket, qui a signé juste après l'Euro au Zénith Saint-Pétersbourg. Choqué ou pas choqué, vous me direz, évidemment, vous avez déjà affûté vos arguments. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport, chers auditeurs. Des milliers de votes pour l'instant et c'est extrêmement serré. Tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des GG. Le retour.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, les Bleus du basket féminin chutent lourdement contre le Canada lors du Mondial. On s'en fout, on s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je m'en fous.
Mario Bartoli.
Je m'en fous.
Stéphane Brun.
Je m'en fous pas.
Denis Charvet.
J'ai regardé, mais j'ai arrêté au bout de 5 minutes.
Ok, donc ils s'en foutent. Les Bleus descendent de leur petit nuage, c'est pas grave, c'est le principe de cette émission. S'il y a des actualités qui ne vous plaisent pas, aucun problème avec ça. Stephen Brun, je compte l'information. Hier, au lendemain de leur victoire éclatante contre l'Australie en ouverture du mondial, les Françaises ont donc été sèchement battues par le Canada pour ce deuxième match de poule du mondial. Défaite 59-45. Prochain match, dimanche matin, demain matin à 6h30, face au Mali. C'est vrai que on était très enthousiaste après le premier match, on est un petit peu redescendu.
Trop enthousiaste peut-être parce que c'est une équipe qui est en expérimentation. Toutes les cadres sont pas là, sont absentes ou blessées. T'apprends le forfait de Marine Johannes 24 heures avant le coup d'envoi de la compétition. C'était une très belle performance d'avoir battu l'Australie. Et c'est vrai que face au Canada qui sont invaincus dans la poule, de victoire pour les Canadiennes, c'était un non-match de basket et de deux côtés. Hein. C'était très vilain. Denis l'a dit, c'était pas une très belle publicité pour le basket, ce qu'on a vu hier matin. Maintenant, il y a quatre équipes qualifiées sur une poule de 6. Le Mali, ça devrait
comme
être...
Comme le basket homme.
Exactement. Le Mali, ça devrait être une victoire facile. Après, ça va jouer sur les deux derniers matchs qui sont la Serbie et le Japon pour gratter un meilleur spot possible. Parce qu'après, tu croises avec l'autre poule où il y a les États-Unis et la Chine qui sont deux favoris. Donc écoute, moi, je n'attends pas grand-chose de cette équipe de France qui est pas loin d'être au complet, qui est jeune, qui manque d'expérience. Donc voilà.
C'est quoi, un quart de finale, ce serait très bien.
Quart de finale serait très bien, sachant que historiquement, l'équipe de France féminine n'a jamais fait mieux que quart de finale au Coupe du Monde.
Voilà. Ok, parfait, c'était très clair. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, un nouveau projet Netflix avec un Drive to Survive pour la Première Ligue. On s'en fout, on s'en fout pas. Stephen Brun.
Un Drive to Survive pour la Première... Mais ça rien à voir.
Oui, mais une série comme Drive to Survive, mais adaptée pour la Première Ligue, t'as compris.
En inside.
Non, ils ne vont pas conduire. Non, tu ne vas pas voir Harry Kane avec une Formule 1.
En behind the scenes.
Je m'en fous. Tous ces documentaires-là perdent leur saveur déjà trop. Ça me fatigue.
Je m'en fous pas pour savoir.
Attends, juste, tu t'en fous pas. Ok. Mario Bartoli.
Je m'en fous pas.
Ok. Christophe Cessieux.
Non plus. Je m'en fous pas.
Comme pour la Formule 1 et le cyclisme, le football pourrait donc avoir droit à son édition de Drive to Survive, mais vous l'avez compris, adapté au football. Selon The Times, la société de production associée à la série diffusée par Netflix a approché la Première Ligue afin de rendre possible ce projet. Les clubs ont déjà été informés, des discussions vont avoir lieu. Sachez que les clubs anglais ont déjà manifesté leur intérêt pour participer à ce projet. Oui, Denis, tu voulais dire quoi ?
Non, mais j'ai envie de voir ce que ça va donner. C'est toujours les inside, moi ça me plaît. Celui de la Formule 1, j'ai été très frustré parce qu'il n'y avait pas Mercedes. Mais pourquoi pas ? On apprend des choses.
Il n'y avait pas Verstappen, tu veux dire, sur Drive
Verstappen. Non, Verstappen, pardon.
Mais parce que Mercedes, c'était lors de la première saison, comme Red Bull.
Oui, excusez-moi. Mais là, oui, pourquoi pas ? Puis en plus, le foot anglais, on le voit et on l'admire de loin. Et là, c'est pour une fois, on va plonger au cœur d'un championnat qu'on aime bien.
Okay,
que j'aime bien personnellement. Moi.
Ok, c'est un projet pour l'instant. Christophe.
C'est vrai que ça se multiplie. Il y en a beaucoup. Il faudrait pas non plus casser le jouet justement à trop les multiplier. Juste pour vous dire que sur le vélo, ils sont venus nous filmer. Nous,
tu vas être RMC, dans la série,
dans la série sur le Tour
dans
de France.
Dans le camion RMC.
Et les moyens mis par les boîtes de production pour faire c'est ce genre de choses, c'est hallucinant. Ouais. Ils avaient un nombre d'équipes dingue avec des caméras.
Ils ont filmé Cyril Guimard à poil.
Ils ont fait pas à poil. On lui a demandé de rentrer sa chemise.
Ils l'ont habillé.
Mais voilà, ils viennent. Il y a 10 équipes qui ils sont partout avec des moyens hallucinants. Donc franchement, ils mettent vraiment les moyens et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le vélo. Et puis,
t'as été interviewé ou pas ?
Bah, il t'interviewe pas vraiment, tu vois.
Il te filme, voilà.
Ils se mettent dans le studio et ils essayent de prendre les trucs. Et ils sont venus tous les jours comme ça, donc on était obligé. Nous, tu vois, en radio d'habitude, on a un t-shirt, en short. Là, on était obligé de faire un peu.
Un peu attention.
Moi, j'ai fait 10 pompes avant de commencer.
Moi, je suis habillé à l'école et c'est vrai qu'au début, quand les caméras sont rentrées dans les vestiaires de rugby, tout le monde a été choqué. Parce qu'on a dit c'est interdit, c'est sacré. Et en fait, aujourd'hui, on voit la puissance de l'image, en fait. Et c'est fabuleux.
Après, vous êtes choqué. Parce que toutes vos conneries, vous les faites dans les bars devant 350 personnes, devant une caméra de télé.
Vos bêtises, tu veux dire.
Vos bêtises.
Voilà, on fait attention
au langage.
Non, mais on fait attention. Il y a des enfants qui nous écoutent. On essaye les mots un peu border de faire attention. Voilà, surtout. Marion.
Moi, je les connais très bien parce qu'en fait, ils ont fait exactement la même chose dans le tennis. Donc, depuis le début de la saison, ils filment dans les tournois du Grand Chelem, les tournois importants. Donc, exactement comme Christophe, ils sont venus aussi me filmer quand je commentais à Wimbledon. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est une boîte de production aussi que je connais bien. Effectivement, ils ont des moyens colossaux et d'avoir un petit peu des accès, effectivement, dans les coulisses, de voir des insides des équipes, de mieux comprendre aussi. Moi, je trouve que ça m'intéresse et au contraire, je trouve pas ça répétitif. Je trouve ça que ça nous a permis de nous réintéresser à la Formule 1. Alors, bien sûr, il y a un engouement qui est énorme autour du foot, donc il n'y a pas besoin de se réintéresser, mais je pense qu'on peut apprendre plein de choses qui vont nous passionner.
Ils le font aussi pour la moto, je crois. Il y a deux ou trois projets différents dans quasiment tous les sports.
En tout cas, ils peuvent évidemment faire une série sur les grandes gueules du sport. Nous, on serait intéressés pour les accueillir.
Je ne suis pas sûr que ce soit intéressé, eux, mais bon.
Bah, tu sais pas.
Ils vont vendre ça.
Méfie-toi, il se passe des trucs de dingue.
Bien sûr, tu as bien raison, mon cher Stéphane. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport à partir de 11h. Dans quelques minutes, le bras de fer des GG autour de la décision de Thomas Hurtel de signer en Russie. Ici au Zénith Saint-Pétersbourg. Team choqué, team pas choqué. A tout de suite sur RMC, ça sent la castagne.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.